polygamie chez eux et aussi qui pratiquent ça à l'étranger, qui l'emportent avec eux en tant que réalité coutumière.
Ouais.
Par exemple, en France, des populations qui les pratiquent sont souvent issues d'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Conakry, le Mali, etc. Mmh. Et qui viennent ici avec leur réalité sociétale. Cela cause un problème d'appréhension juridique. Ça revient à la question que vous avez posée, comment doit-on regarder la polygamie sous l'angle juridique ?
Ouais.
Effectivement, tout est question pour moi de consentement. Parce que dans le droit, toute personne est libre de consentir ou de ne pas consentir. Et c'est un principe de droit carrément civil, mais c'est un principe de droit fondamental. Il y va de la liberté individuelle, de la liberté personnelle, d'où le sujet liberté personnelle ou discrimination à l'égard des femmes. On va y revenir parce que d'autres voient la polygamie comme une discrimination infligée aux femmes. Mais si on est libre de consentir, qu'on est un majeur, qu'on n'est pas protégé, ça veut dire qu'on n'est ni en curatelle, ni en tutelle, qu'on jouit pleinement de toutes ses facultés mentales et qu'on consent volontairement à avoir comme époux, Monsieur Phil, Jainabe veut Phil, Bintou veut Phil, Henriette veut Phil, qui se retrouve avec 5 femmes, mais je ne crois pas qu'en cela, on peut parler de discrimination. Parce que elle accepte de partager Phil, elle accepte. Par contre, on peut se poser la question, dans certaines sociétés, est-ce que ce consentement est libre ? On peut consentir parce qu'il y a une pression sociétale qui fait qu'on dit oui parce qu'on ne peut pas dire non.
Exact.
Quand on dit oui et qu'on ne peut pas dire non, on peut remettre en cause la sincérité de ce consentement qui est extorqué. Le consentement peut être vicié par beaucoup de choses. Et parmi les vices du consentement, il y a le fait que c'est une violence sociétale. On extorque le consentement, on est obligé de dire oui. En ce moment, on peut remettre en cause, à mon sens, la polygamie à laquelle a été contrainte une femme. On dit aussi qu'il y a une atteinte à la considération de la femme. Mais cela suppose que la femme ne soit pas d'accord, comme on l'a dit.
Bon, sur en tout cas, j'espère à Lutel qu'on écoutera beaucoup de femmes nous appeler ce
exactement.
Matin.
Exactement. On va aborder toutes les questions sans tabou et à l'angle du droit. Mais le droit, comme je l'ai dit toujours, ne peut pas être dit sans les faits. On part des réalités factuelles, des réalités sociétales qui nous concernent. Donc, je disais à ce moment-là que tout relève maintenant du consentement en tant que tel. Parce qu'il y a une liberté individuelle. Chaque femme est libre de choisir son conjoint. Polygame, monogame, multigame.
Multigame. Déjà,
c'est même pas poli, parce que c'est tellement de femmes qu'on vous disait multigame, c'est à gauche, à droite, on ne sait pas définir ça. J'appelle ça de la multigamie.
De la multigamie.
Et il y a les hommes aussi qui ont plusieurs copines. Mm-hmm. Faut-il les sanctionner en tant que polygame ? Il y a aussi des femmes qui ont plusieurs copains ou bien qui ont un époux, mais qui, à côté...
Qui pratiquent la polyandrie, c'est bien
ça ? Oui, la polyandrie de fait.
Ouais.
Pour moi, c'est une polyandrie de fait. Mm. Il y a aussi la polygamie de fait. On va y revenir, parce qu'on parle de la polygamie quand c'est reconnu par le droit en tant qu'institution. Uh-huh. Mais on ne parle pas de la polygamie que certaines populations pratiquent de facto et qui, pour moi, peut avoir des conséquences beaucoup plus désastreuses au niveau de l'organisation de la vie sociale. Y a-t-il, par exemple, une différence entre un président de la République qui est polygame de fait, qui prend son scooter pour aller voir sa deuxième femme, et le monsieur Mamadou Traoré qui, lui, assume son mariage avec ses deux femmes. Uh-huh. Honnêtement, si on doit sanctionner moralement entre ces deux, qui devrait-on sanctionner ? L'un, il est honnête. L'un, il est dans le droit. Ouais. L'autre, il est hypocrite. Il est dans son scooter. Ouais. Il fait ce qu'il fait. Tous les deux, ils font la même chose. Ils ont deux femmes. Donc là, c'est l'appréciation des auditeurs et l'appréciation. En tout cas, au regard du droit, effectivement, selon le pays où on se trouve, on va sanctionner l'un ou l'autre. Si c'est dans un système où on accepte la polygamie, Mamadou Traoré serait dans ses droits, Monsieur Scooter, lui, serait sanctionné pour adultère, alors que dans d'autres systèmes comme la France, Monsieur Scooter, il est dans ses droits. À l'issue de l'adultère, n'est pas réprimé en tant que tel. L'adultère n'est plus, dans certains pays, une cause péremptoire de divorce. Ça veut dire que vous pouvez faire l'adultère. Tout le monde est adultéré. On vous encourage même à être adultère, mais n'ayez pas de femme de manière légale.
Exactement. Alors, à Lutel, avant de poursuivre avec toutes ces explications, on va peut-être prendre le point de vue de Maman Gauze, la première à nous appeler. Bonjour, Maman Gauze.
Phil.
Oui.
Je dis bonjour à mon patron qui est à côté de vous.
Bonjour.
Bonjour, Maman Gauze.
Cette histoire-là, vraiment, ça affecte que nous, les Africains. Parce que quand ton mari a une copine, bon, tu l'aimes aussi, tu te manifestes. Mm-hmm. On te bastonne d'abord.
D'accord. Puis
on te dit, bon, tu peux rentrer même chez ta mère, parce que c'est pas ta maman qui m'a mis au monde, mais c'est pas toi, tu me laisses faire ce que je veux. Mm-hmm. Bon, finalement, nous aussi, on a pris l'habitude, bon, s'il sort, on dit rien, de peur de se faire bastonner.
Ah oui.
Il n'y a pas que cette histoire de maîtresse, de quoi, non. Les enfants qu'il va faire au dehors. Mm-hmm. S'ils n'ont pas eu les mêmes éducations, ils vont s'entretuer. Hein? Parce que ceux qui sont à la maison voient leur maman être battue chaque fois, à cause de ta maman. Et eux aussi, ils vont prendre des renseignements sur ta maman, plus toi. Ils vont se rebeller. Hein? Ça fait des fois des dégâts en Afrique surtout.
Effectivement.
Bon, tu as ta femme, vous avez des enfants. Si tu as une copine au dehors, dis-lui que moi-même, mon papa était marié à 45 femmes. Donc, pardon, je vais prendre celle qui est au dehors.
45, c'est beaucoup quand même, Mama Gouze.
Non, parce que vous...
C'est
vous,
tout un village.
Vaut mieux qu'on mette la chose sur la table, on va discuter.
Oui,
d'accord. Là, tu vas, tu ramasses la maladie là-bas, si tu amènes, ouais. Les enfants qui sont à la maison sauront que c'est toi qui es allé au dehors pour chercher maladie pour tuer leur maman. Mm-hmm. Ça, c'est encore deuxième guerre.
Oui. Parfait,
madame. Alors, moi, je crois qu'il y a les autres qui ont leurs coutumes. Mm-hmm. Parce que ces coutumes-là, on ne peut pas aller contre. Mm-hmm. Parce que moi, le père de ma mère, c'est un bon musulman. Mm-hmm. Un très bon musulman. Il a aligné ses femmes et il leur a dit que, bon, vous êtes des femmes chrétiennes, j'ai eu des enfants avec vous, voilà votre département. C'est-à-dire, il a fait deux maisons, restez là-bas. Moi, j'ai pris Fatmata. C'est ma femme, mm-hmm. musulmane, nous, on est de l'autre côté. Là, c'est bon.
Oui.
Est-ce qu'il y a palabre dedans?
Oui. Il n'y a pas palabre. Il n'y a pas palabre.
Allô?
Non, il n'y a pas palabre du tout.
Il n'y a pas palabre dedans. Donc, ce n'est pas parce qu'on a pris seulement que toi, tu vas laisser tes enfants partir. Bon, tu vas faire l'hypocrite jusqu'à mm-hmm. tu seras habitué. Mm-hmm. Mais nos maris d'aujourd'hui,
ouais. Ils sont comment?
Si toi-même tu es dedans déjà, hein, parce que
ah
je
ne bon?
Connais pas, mais façon que tu supportes les choses là, je sais que toi-même tu es quelque part.
Ah non, moi je suis déjà casé. Hein.
Ah d'accord.
Avec une bon. Seule.
Très bien. Que le Seigneur t'attende. Donc, c'est pour vous dire que cette histoire de polygamie, on n'a qu'à légaliser ça et puis on est tranquille. Chaque fois on nous frappait. Moi-même on m'a tapé jusqu'à. J'ai rendu démission.
Mais madame, expliquez-nous, vous avez dit qu'on vous a frappé dans quel cadre, dans le cadre de votre mariage?
Mais moi, mon mari que j'ai eu quand j'avais 15 ans, c'est lui, mon premier homme, voilà Dieu aujourd'hui qui me regarde, c'était mon mari. Mais université, c'était le premier universitaire de mon canton, je dis bien canton. Alors moi je sais que je suis mariée et j'ai commencé à aligner les enfants, croyant qu'on allait se marier. Mais quand il a vu quelqu'une au dehors là-bas, moi, ma mère à la poubelle, me voici aujourd'hui seule en France. Mmh. Et j'ai traîné mes enfants derrière moi.
Oui.
Ce n'est pas bien.
D'accord, mais maintenant la question est de savoir, est-ce que ce que vous dites a un rapport avec la polygamie ou pas? Est-ce que vous pensez
que c'est votre mari... C'est la polygamie trichée? C'est la polygamie cachée?
Ah, très alors, bien, merci
c'est
beaucoup.
C'est la même chose qu'il
merci.
Fait là-bas, quoi, moi, même chose, c'est pas bien.
Oui. Merci madame.
On avait quel moyen, on avait quel argent à l'époque à Côte d'Ivoire? On avait quoi pour avoir affaire à deux familles? Finalement, il y a une famille qui était privée de nourriture.
Très bien.
Après, il n'y en a plus.
Très bien.
Ça ne voilà. fait pas. Voilà.
Merci pour votre contribution, hein, vraiment.
Merci beaucoup, Mama Gouze. Oh,
Mama Gouze, vous avez soulevé des questions très pertinentes.
Elle a soulevé, voilà.
Ah, il y a la polygamie de fait.
Un témoignage personnel en plus.
Oui, oui.
Merci
plus,
beaucoup, Mama Gouze.
C'est très profond parce qu'elle nous a démontré que les méfaits que l'on attribue à la polygamie ne sont pas exclusivement liés à la polygamie institutionnelle. Ça peut être aussi lié à la polygamie de fait. Et là, c'est son cas de figure. Elle parle d'elle-même. Donc, la polygamie de fait est une réalité au même titre que la polygamie institutionnelle. Elle a soulevé une autre question, à savoir la question de santé publique, de maladies, par exemple, qu'on peut transmettre des maladies.
Exactement.
Mais là, ce n'est pas aussi lié uniquement par rapport à la polygamie que de fait ou de droit. Parce qu'on peut être un monsieur, je ne vais pas citer Phil. Hein.
Oh, mais arrêtez de me citer, ma femme va se fâcher.
Et qui tourne à gauche, à droite, ça veut dire c'est encore pire que la polygamie, à mon sens. Ouais. Par exemple, quand on est un électron libre, entre guillemets, on va où on veut en matière sentimentale, en matière sexuelle, pour ne pas le dire. Là, on peut devenir plus dangereux parce qu'on ne sait même plus qui est le partenaire, c'est le partenaire de nuit. Ça peut être plus dangereux que dans le cadre organisé où on a plusieurs femmes et que on reste avec ces femmes-là. Donc, je veux dire que les questions de maladie, ça existe, la question de santé publique existe, mais ce n'est pas du tout inhérente à la polygamie. Ça, et une dernière question, elle a parlé aussi donc, de ces violences conjugales, la violence conjugale dont elle a été victime, mais du fait que le mari n'assumait pas cette polygamie et que peut-être elle se plaignait, elle voulait une justice sociale, elle voulait une justice pour elle-même. Et donc là aussi, c'est un problème qui est lié plus à la polygamie de fait qu'à la polygamie de droit. Donc, avant de donner la parole aux auditeurs pour émotionner cette première question aussi, et toujours soulever les interrogations auxquelles nos auditeurs peuvent réfléchir et intervenir, interagir avec nous.
Nous avons un appel de Kinshasa, hein, peut-être prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Kinshasa,
nous vous écoutons. Bon, cet auditeur a coupé, bon, on va poursuivre.
On va poursuivre. Donc disons donc, que la question qui se pose, est-ce que c'est le droit fondamental à l'égalité entre l'homme et la femme est rompu ou pas? C'est une question pertinente que beaucoup de gens, des féministes, soulèvent et s'appuient sur ça pour fustiger la polygamie. Mais est-ce qu'on peut concevoir une égalité mathématique entre l'homme et la femme. Mmh. Si tel est le cas, pourquoi ne pas dire que le fait que l'homme ne tombe pas enceinte, on peut dire que c'est une discrimination? Pourquoi l'homme n'allait pas? Pourquoi l'homme ne porte pas l'enfant dans son dos? Tout ça, si on va à l'extrême d'une égalité numérique mathématique, ça va aboutir à des absurdités qui ne peuvent pas tenir lieu. L'homme et la femme sont naturellement et génétiquement de conception différente. Mmh. Donc, on a déduit des conséquences au niveau de la vie sociale. Donc là, c'est une question qu'on se pose. Il y a aussi atteinte psychique. Le fait d'avoir partagé ou de devoir partager un seul homme par plusieurs femmes, souvent sur le même toit, parce qu'en général, il y a des polygames qui ont dans la même concession ou dans la même maison leurs deux femmes. Il y en a qui maintenant décohabitent. Il y a la femme qui a un appartement, une autre femme a un autre appartement. Mais en général, c'est des femmes qui habitent ensemble. Le fait de vivre ensemble et de savoir que votre époux va dormir avec la coépouse ou l'une des coépouses, est-ce que ce n'est pas une violence psychologique?
Psychologique, ouais.
Est-ce qu'un homme à la place de cette femme n'aurait pas perçu ça comme une violence psychologique? Personnellement, moi, je l'aurais vécu comme une violence psychologique. Donc, je peux comprendre cela comme argument qui est très fort. Le fait de sentir que vous êtes obligé de partager un homme, parce que l'amour aussi, ça existe, les sentiments existent. Ouais. Et ces sentiments, on est obligé de les partager. Lui, il peut cumuler les sentiments. Vous devez diviser les sentiments et l'affection que vous avez. Et aussi, il y a un autre argument qu'on dit, c'est qu'au niveau sociétal, il peut y avoir des conséquences, des problèmes qui sont très difficiles à résoudre. Par exemple, beaucoup d'enfants qui n'ont pas l'éducation auquel ils ont droit, parce que le mari a 4 femmes, chaque femme a 7 enfants, ça leur fait plus d'une vingtaine d'enfants, et que ce monsieur à lui seul ne peut pas les entretenir.
Exact.
Il y en a même qui disent que ça augmente la démographie dans les pays africains. Mais ça, c'est un argument faux, parce que ces mêmes femmes pourraient avoir les mêmes enfants avec plusieurs hommes. Ça veut dire que ce serait toujours le même nombre d'enfants. Mmh. Pour moi, la question pertinente est de savoir, est-ce que le seul homme qui n'a parfois pas tous les moyens qu'il faut pour entretenir ces enfants de toutes ces femmes-là, est-ce que c'est plus adapté que ce soit un seul homme pour éduquer 20 enfants ou bien que ce soit 4 hommes pour éduquer 20 enfants? Effectivement, on peut pencher carrément sur la deuxième hypothèse. Sauf que cet argument peut être relativisé parce que dans d'autres pays où on pratique la polygamie, des pays catholiques, des catholiques profonds comme les mormons aux États-Unis, ces mormons-là qui pratiquent la polygamie, mais qui pratiquent bien la polygamie. Ça peut être un homme avec 5 femmes, avec 30 enfants qui se retrouvent dans les meilleures écoles des États-Unis. Parce qu'il y a une éducation stricte, catholique, rigoureuse.
Alors, à Luttel,
effectivement, à ce niveau-là, l'argument de la famille nombreuse, pour moi, ne tient pas, ne peut pas prospérer.
Alors, à Luttel, au cas où une femme pratiquerait la polyandrie, c'est-à-dire avec deux maris et tomberait enceinte, à qui on devrait attribuer la paternité de cet enfant? Je me suis souvent posé la question, comment ça pouvait se passer, en fait, c'est-à-dire qu'une femme qui a deux hommes dans le même toit et qui, ma foi, tombe enceinte, les deux seront parents, les deux papas, ou y aura-t-il un papa principal et administrativement? Comment ça peut se gérer, ce type de situation?
Très difficile à gérer. On peut même dire que ça ne peut pas se gérer. On va faire une présomption de paternité.
Ouais.
Et là, j'écrivais un article sur cette question il y a quelques années, sur la question de la problématique, et que je relevais qu'effectivement, il y aura, comme vous le dites si bien, Phil, en tant que bon juriste, là vous soulevez un problème de droit très profond.
Exact.
Il y aura une difficulté à déterminer la paternité, à déterminer la filiation, sauf à recourir systématiquement à des tests ADN.
Ouais.
Et voilà. Là, maintenant, la science le peut, mais si vous trouvez en plein profondeur de Yopougon, là-bas, je ne pense pas que vous allez recourir à chaque fois que vous êtes polyandre et que l'une des femmes a un enfant, vous n'allez pas recourir à des tests ADN. Soit le système juridique vous permet de faire une présomption. Mm-hmm. Alors, cette année, c'est vous le parent, l'autre année, c'est vous. On fait de la loterie de la filiation et ça devient vraiment des situations très absurdes. On en rigole, mais c'est des situations réelles qui vont s'opposer. Mm. Donc, il y a aussi l'impossibilité de procéder à une dévolution successorale en cas de décès de l'un des époux. Il y a un risque d'inceste qui peut se poser avec des mariages consanguins qui peuvent se passer dans le cadre de la polyandrie. Les gens vont se disperser et peuvent se retrouver en tant que mari et femme ou bien en tant que copain et copine alors qu'ils ont effectivement le même géniteur. Mmh. Ils ont le même père. Mais on ne peut pas le savoir parce que comme le papa n'était pas le seul géniteur possible, il y avait plusieurs maris pour une seule femme, les gens vont se retrouver dans une société à se marier entre eux alors qu'ils sont frères et sœurs. Ce sont les conséquences qui font que les gens, en général, ne sont pas du tout d'accord pour la polyandrie. Donc ça, c'est un fait, effectivement. Et il y a d'autres conséquences. Donc au niveau social, par exemple, Si un homme a, par exemple, 30 enfants, et que ces enfants, chaque enfant, on doit, marquer et incarner l'autorité parentale sur cet enfant-là, la pratique de l'autorité parentale peut poser un problème quand on a plusieurs enfants. Ce qui fait que pour eux, l'autorité parentale n'étant pas effectivement appliquée, l'obligation d'éducation et d'entretien n'étant pas effectivement assurée, les gens en déduisent que c'est une source de délinquance. J'ai entendu des personnes dire ça. J'ai même une personne que je connais bien, on a fait un débat télévisé ici en France, une femme qui a écrit un livre sur ça, qui qualifiait la polygamie comme une barbarie, et qui disait que la polygamie est source de délinquance. C'est grave, même il y a des gens d'extrême droite dans certains pays européens qui pensent que la source de la délinquance, pour ne pas citer un monsieur de Vendée, un responsable politique de la Vendée, qui disait carrément que la cause de la délinquance dans les banlieues parisiennes, c'est la polygamie. Ça, c'est des raccourcis très graves qui n'ont pas de sens parce qu'ils disent que l'autorité parentale n'est pas appliquée, les gens n'ont pas le temps de s'occuper de tous les enfants, donc les enfants deviennent de facto des délinquants. La polygamie, pour eux aussi, favoriser le coquillage. Ça veut dire que des femmes insatisfaites de leur époux polygame chercheraient à combler leur libido naturel avec d'autres maris.
Avec d'autres
Ça veut dire que, par exemple, normalement, un homme a les mêmes besoins qu'une femme. Si cette femme a un homme qui couche avec 4 femmes, ça veut dire qu'elle n'a qu'un quart de satisfaction. On dit que pour les 3/4, elle peut être tentée à aller chercher ailleurs.
Exact.
Donc la polygamie allait encourager en ce sens, selon certaines personnes, le fait que les femmes vont être un peu volages. Dans les pays où la polygamie est interdite, maintenant, effectivement, il y a une autre problématique qui peut se poser.
Alors, dans les pays où la polygamie est interdite, quelles sanctions encourent les maris qui ne peuvent pas se contenter d'une seule femme? Ils vous écoutent, Aliutal.
Et là, c'est une question pertinente. Comment ça a été tourné? Les maris qui ne peuvent pas se contenter d'une seule femme.
Les maris qui ne peuvent pas se contenter d'une seule femme.
Je suis désolé pour mes amis polygames. J'ai pas mal d'amis qui sont polygames. Donc, tout ce que je dis, ce n'est pas une réalité personnelle. Quand je parlais de ça, je défendais plus ou moins la polygamie en tant qu'institution.
Ça ne concerne pas que l'Afrique. Moi, à l'exemple du célèbre footballeur brésilien Ronaldinho, qui a deux compagnes, qui vit avec les deux. D'ailleurs, il a dû partir du Brésil pour aller célébrer ce double mariage.
Ben oui, et moi, je donne un exemple d'un ami français. Il est ici, catholique, et il est polygame. Il est marié à deux Africaines. Et qu'il accepte sur le même toit.
D'accord.
Et lui, je le respecte. Parce que vraiment, il le gère très bien et tout se passe très bien. Donc, on s'en va dire. Donc, à ce niveau, par rapport à la question pour l'appréhension juridique, il peut se poser un problème de droit international privé, comme on l'a dit souvent. Parce qu'effectivement, il y a le statut personnel de l'individu qui est en cause. D'après le droit international privé, le système de résolution des conflits de loi impose à tout pays de respecter le statut personnel qu'observe l'étranger depuis son pays d'origine. En l'occurrence, son statut de polygame. Par exemple, dans certains pays, on essaie de transgresser cette obligation du droit international en infligeant des sanctions de fait aux polygames. C'est le cas, par exemple, de la France. On va y revenir. Carrément, il y a des sanctions qu'on inflige aux polygames. Mais si je suis polygame, je suis brésilien, et que je pars dans un autre pays, au Sénégal ou au Gabon, pour vivre là-bas, j'apporte avec moi mon statut personnel. Le statut personnel va avec moi, ne me quitte pas. Les autres pays doivent le respecter. Ça veut dire que le droit applicable à ma vie personnelle, à mon statut personnel en tant que congé ou autre, c'est le droit de mon pays d'origine. Mon extranéité géographique ne va pas impacter ces droits. Cela veut dire que la France n'a pas le droit de m'empêcher d'être polygame statutaire. Je parle de polygame statutaire. On ne va pas vous dire changer de polygamie. Mais pourquoi d'ailleurs, ce qui a inspiré ce thème d'aujourd'hui, parce qu'il y a une dame malienne qui est venue me voir au niveau de l'association, à qui on a retiré son titre de séjour de 10 ans de carte de résident pour lui donner un titre visiteur.
Ah.
Parce que son mari a pris une deuxième femme, on a obligé à cette dame de décohabiter. On lui dit, madame, si vous voulez le renouvellement de votre titre de séjour, vous devez quitter votre mari et le domicile conjugal. La dame a plusieurs enfants avec cet homme. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est du droit fondamental? Elle n'a pas voulu, par sanction, on retire le titre de séjour, on lui donne un titre visiteur. Ça veut dire qu'elle ne peut plus travailler ici en France. Elle est comme une touriste, alors qu'elle a même des enfants français. On lui dit que c'est votre droit. Maintenant, si vous restez avec ce mari, ça veut dire que par ricochet, vous acceptez sa polygamie. Le mari, lui, on a retiré son titre de séjour, pareil, visiteur, parce qu'il a des enfants qui sont ici. C'est ce qui a suscité cette réflexion. C'est une violation, à mon sens, du droit international, parce que le statut personnel et avec la personne. C'est un statut qui est intrinsèque à l'individu qu'un autre pays étranger ne devrait pas impacter négativement. Malheureusement, dans des pays comme la France, cela se fait et c'est le cas de cette dame-là donc, qu'on est en train d'accompagner. Et il y a des États qui sanctionnent carrément le fait que vous avez ce statut. Vous dites carrément, vous êtes polygame ? Non, vous ne pouvez pas être là. Alors en France, c'est plus subtil, pour ne pas dire hypocrite. C'est-à-dire, vous pouvez, mais voilà ce qui va suivre. Pour le regroupement familial, par exemple, il y a des contraintes. Si vous êtes polygame dans un pays comme la France ou dans beaucoup de pays européens, si vous résidez en France pratiquement avec deux de vos épouses ou plusieurs, effectivement, c'est un motif de retrait de l'accord du regroupement familial. Mmh. Et si vous êtes polygame et qu'il y a ici une épouse et que l'autre est là-bas, c'est un motif de rejet de votre demande de regroupement familial. Mmh. Ça veut dire qu'on sanctionne carrément, on est sévère. Le Code des étrangers a été modifié depuis 1993 avec le défunt Charles Pasqua, que certains ne regrettent pas, dont moi, parce qu'il a beaucoup fait mal aux étrangers. Mmh. Et donc, depuis lors, la polygamie est devenue vraiment de la peste, comme la peste. Et donc, ça commence par le regroupement familial. Les enfants, par exemple, de l'époux qui est là, polygame, qui est venu dans le cadre du regroupement familial, aussi pareil, ne pourrait pas bénéficier de ce droit qui est fondamental, qui relève d'un droit fondamental que la France a acté, que tous les pays européens ont acté à travers l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Mmh. Donc, on le décrète, c'est un droit supranational qui dépasse tous les droits des pays de l'Union européenne, mais que ces pays violent quand il s'agit de la polygamie, quand il s'agit globalement des Africains. Mmh. C'est vraiment désolant de le constater. Il y a aussi un autre problème en cas de rupture de la vie conjugale. Normalement, une femme qui quitte son mari en France parce qu'il a pris une deuxième femme ne perd pas son titre de séjour, même si elle l'a eu par le regroupement familial en tant que conjoint, par exemple, d'un Français ou d'une personne qui a un titre étranger. Cela veut dire que, a priori, pour bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial ou de la réunification familiale quand votre conjoint est français, l'article L313-11-4 du Code des étrangers exige que le conjoint des ressortissants continue de mener une vie privée effective et affective sous le même toit. Mmh. Ça veut dire que dès que la vie commune est rompue, le titre de séjour de l'étranger va être retiré. Ça, c'est le principe. Il y a des exceptions. On va y revenir après avoir écouté notre auditeur.
On va prendre Oumar. Bonjour, Oumar.
Oui, bonjour.
Alors, Oumar est-il polygame ? Première question.
Non, moi, je suis pas polygame.
Alors, il faut déjà arrêter votre poste, voilà, pour une meilleure audition. Alors, est-ce que Oumar est polygame ?
Je suis pas polygame et je déteste aussi la polygamie après.
D'accord.
Je déteste carrément.
Allez, on vous écoute, Oumar.
Allons-y, Oumar.
Ouais, la polygamie aussi, après, ça apporte plusieurs choses dans une famille, plusieurs décisions et tout,
Alors, Oumar, vous êtes certainement en voiture, mais on entend des bips et c'est désagréable à l'oreille.
Vous dites ?
Allez-y, on vous écoute cette fois.
Ouais, et bien du coup, je suis contre. Mais dorénavant, avant tout ça, je voulais même poser une question à le maître.
Allez-y.
Voilà, pour une question concernant moi-même. J'ai mon récépissé du 6 mois qui est avec moi. Et bien, c'est mis que je ne suis pas autorisé à travailler. Mmh. Et bien du coup, je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour qu'on me légalise à travailler.
D'accord. Ça n'a pas entré avec la polygamie, hein.
On est sorti un peu du sujet. Ouais,
mais quand même, comme on vous a eu, Omar, on va vous répondre rapidement. En fait, vous avez un récépissé de 6 mois qui ne vous permet pas de travailler.
Ouais,
on vous a donné ça suite à quelle démarche ? Vous avez fait quelle demande de titre de séjour ?
Raisons médicales.
Pour des raisons médicales ?
Ah.
Ouais.
D'accord. Et effectivement, donc en ce sens-là, il n'est pas dit que si c'était pour des raisons professionnelles, on pourrait vous donner l'autorisation de commencer avec l'employeur qui vous a fait la promesse d'embauche. Comme c'est pour un motif humanitaire, c'est la relève de l'article L313-11-11 du Code des étrangers. Effectivement, la préfecture n'est pas tenue de vous délivrer cette autorisation de travail. Néanmoins, comme c'est un récépissé de 6 mois, ce que je vous conseille, c'est avant le renouvellement, d'écrire au préfet pour demander à ce qu'on vous délivre une autorisation provisoire de travail le temps de l'examen de votre dossier. Et ce que je vous conseille, c'est d'y adjoindre une promesse d'embauche. Parce que là, ce sera du lourd et on pourra vous le donner. D'autant plus que ça va dans le sens de l'évolution de la loi qui a été ébauchée depuis le 14 décembre 2018. Donc ça, c'est ce que vous devez faire. Voilà le cadenas de ce que vous pouvez faire. Après, vous pouvez vous approcher de quelqu'un de compétent comme nous à l'association ou bien quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord, Oumar ?
Ok, voilà. Ça va, ça marche.
Très bien. Donc, par rapport à ce qu'il a dit en premier lieu, par rapport à il déteste la polygamie. Il y en a qui détestent parce qu'au niveau des conséquences, bon, il l'a dit de manière brute, mais on comprend bien. Voilà. Vraiment, il y a des conséquences. Je donne un exemple au niveau sociétal, au niveau des successions, mais beaucoup de familles se déchirent, dès qu'il y a une succession. Les enfants de chaque épouse constituent un camp et s'entretuent. Mmh. Les gens se font trop mal. Et c'est dans tous les pays du monde, hein. Je veux dire, c'est dans tous les pays. Et quand il y a la polygamie, les gens se disaient, frère, il y en a même qui n'acceptent pas qu'on leur parle de demi-frères.
Exact.
Ils disaient que nous, on n'est pas des demi-frères, on est des frères. Ouais. Mais dès qu'il y a des biens, du défunt à partager, les gens deviennent des ennemis. Il y a une animosité vraiment incommensurable que moi qui me dépasse dans certaines familles africaines. Parce que le défunt polygame est parti, les femmes s'entretuent et emportent dans ce combat leurs enfants.
Exactement. Nous allons prendre Samou. Bonjour.
Oui, bonjour Phil.
Bonjour et bienvenue Samou.
Bonjour Maître Aliutal.
Bonjour Samou.
Alors, est-ce que Samou est polygame ou pas ?
Non, je ne suis pas polygame.
Ah d'accord, ok. Madame écoute, hein, on vous écoute aussi.
En fait, j'aimerais savoir en fait, à quel moment on dit que quelqu'un est polygame ? C'est lorsque son mariage est validé à la mairie, à la mosquée, ou il vit avec deux femmes directement. À quel moment on dit qu'il est polygame et que la loi prend cela en compte ?
C'est une question très pertinente. Hein. Vraiment, merci Samou, vous venez de poser une question très pertinente qui, même au regard de certains juristes, peut poser un problème. Mmh. Effectivement, parce qu'on fait un amalgame entre le factuel et le juridique. Là, la question qu'il pose, c'est au niveau juridique. À quel moment, juridiquement, on peut dire que M. Phil est polygame ou pas ?
Ah non, je ne suis pas polygame.
Non, alors, on est dans une fiction, hein. On fait dans la fiction.
D'accord.
Effectivement, au niveau du droit, on est polygame à partir du moment où on est marié et que ce mariage est civilement constaté avec au moins deux femmes. Là, on est polygame. Mmh. Maintenant, le constat du mariage n'est pas forcément fait devant l'autorité civile. Le constat peut se faire devant une autorité coutumière. Dans certains pays, par exemple, le mariage coutumier a la même valeur que le mariage civil à partir du moment où on fait sa déclaration après. Par exemple, je donne un exemple des pays d'Afrique de l'Ouest. On est marié à la mosquée, ça a la même valeur que le mariage devant l'officier d'état civil de la mairie. Il faudra juste faire la transcription automatique. Donc, une fois qu'on est marié et qu'il y a le constat de ce mariage devant l'autorité coutumière, on est polygame. Parce que ce mariage, même si il n'aurait pas été fait dans les formes usitées au droit coutumé, sera opposable à la personne qui a oublié de faire le constat de ce mariage. Donc, à partir du moment où il y a un constat officiel, on est polygame. L'autre intérêt de votre question, c'est par exemple, à partir du moment où on est dans un autre pays. Par exemple, les immigrés qui sont en Italie ou en Espagne ou en France, à partir de quand peut-on dire qu'ils sont polygames ? Est-ce que le Mamadou Samou, qui est ici en France et qui vit avec une femme ici et avec une autre femme dont il est marié mais qui est à Yopougon,
qui est dans un autre pays,
est-ce qu'on peut dire que Samou est polygame ?
Polygame, ouais.
Il est polygame de manière statutaire, de par son statut personnel, mais il n'est pas polygame dans les faits. Il ne pratique pas la polygame sur le territoire du pays. On ne peut pas le sanctionner de ce fait. Mmh. Normalement, on ne doit pas le sanctionner parce que c'est la pratique de la polygamie que l'État d'accueil peut sanctionner, pas votre statut. Je disais que ce statut relève du droit international et c'est un droit fondamental. Donc, votre question est très pertinente parce qu'on peut en déduire des conséquences. Certaines personnes, on leur refuse, par exemple, la naturalisation. On vous dit que vous ne pouvez pas être naturalisé parce que selon la loi, par exemple, en France, le postulant à la nationalité française doit être assimilé à la communauté française. L'article 21-24 du Code civil dit que nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française et s'il n'adhère pas aux principes et aux valeurs essentielles de la République française. Or, parmi ces principes, il y a le délit de bigamie. En France, on ne peut pas être marié deux fois. Autre chose qui me permet donc d'achever le propos sur la question avant de prendre notre dernier auditeur, il faut dire que pour les femmes, on va dire pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, parce que maintenant c'est la tendance, on a traité la question que vous l'avez dit Phil en introduction. Les femmes peuvent estimer qu'au regard de la polygamie qu'elles n'acceptent pas, elles sont victimes de violences psychologiques. Mmh. Une femme qui est ici en France peut avoir un titre de séjour si son mari prend une deuxième femme à Yopougon ou à Brazzaville. Pourquoi ? Qu'est-ce qui le permet ? Il y a une loi du 4 août 2014, de même que le Code des étrangers en son article L313-12 qui interdit au préfet de refuser le renouvellement du titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour si l'étranger a été victime de violences psychologiques. Or, dans ce même pays, on considère la polygamie comme une violence psychologique. Donc, si votre époux prend une deuxième femme ailleurs et que vous n'êtes pas contente, de ce seul fait, vous avez droit à un renouvellement de titre de séjour ou à une délivrance de titre de séjour.
Merci Samou pour votre question. On va terminer avec Lambert. Bonjour Lambert.
Oui, bonjour.
Alors Lambert, est-il un polygame ?
Non.
Ah, d'accord, ok.
Bonjour Lambert.
Lambert n'aura pas le courage de nous le dire en direct.
Voilà. En fait, j'aimerais poser une question sur peut-être l'émission de la dernière fois. Monsieur Ali Tal, il a dit que par rapport aux demandes, celui qui a un titre, parce que moi j'ai un titre de séjour italien, mais un titre de résident italien, mais j'ai mes enfants qui sont ici. Donc, du coup, j'avais voulu me débaucher, j'avais voulu me venir ici. Et j'aimerais savoir si je peux faire la demande, parce qu'il a dit avec le titre de résident italien CE. Il n'a pas dit le titre d'italien, il a dit le titre de séjour.
Le titre de séjour, oui, résident longue durée CE.
Voilà, CE. Donc j'aimerais savoir si avec mon titre de séjour CE, je peux faire aussi la demande si j'ai peut-être...
Très bien.
Alors, on va terminer sur cette question. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Lambert, on va terminer plus qu'une minute.
Très bien. Voilà. Donc Lambert, ce qu'il faut dire pour revenir à ce que j'avais dit, effectivement, que ce soit un titre de séjour italien ou espagnol ou français, à partir du moment où c'est marqué résident longue durée UE, ça relève d'une directive européenne qui vous donne le droit d'établissement dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc en France, vous avez la possibilité de demander à la préfecture qu'on vous délivre un titre de séjour vie privée et familiale. Faites-le sur cette base, pas sur la base de vos enfants ou autre chose. Parce que j'entends un bébé, probablement c'est un enfant, mais n'essayez pas d'entrer dans ce schéma-là. Le schéma qui est valable pour vous, c'est de demander directement cette délivrance en évoquant le droit européen. Ce qui est de droit, la préfecture ne peut pas le refuser.
Polygamie, liberté personnelle ou discrimination à l'égard des femmes, c'était donc le sujet du jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Est-ce qu'on va faire un deuxième volet sur ce programme?
Oui, on peut ébâcher cela et puis faire un clin d'œil à nos amis qui sont en Europe et notamment en France par rapport à la polygamie, par rapport au droit au séjour. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles par rapport au droit au séjour et surtout par rapport à la naturalisation. Si on vous refuse cela parce que vous êtes polygame ou bien si vous êtes polygame et que vous comptez demander une naturalisation, quelles précautions vous devrez prendre pour qu'on vous ne vous dise pas que vous êtes polygame et que cela constitue un motif de rejet ou d'ajournement de votre demande de naturalisation. On va y revenir pour vous donner des conseils que le droit permet, le droit de votre pays d'origine et le droit de votre pays de résidence.
Merci beaucoup Ali Tal, donc rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain.
Merci Phil, et un clin d'œil aux zérogames, comme moi.
Aux zérogames.
Il y a la polygamie, il y a la zérogamie.
Ah, d'accord, merci Ali Tal.
Merci Phil.
Le droit est nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.